Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent, bienvenue à Terre de Femmes. Cette nouvelle émission se veut un rendez-vous hebdomadaire afin de transmettre de l'information sur la réalité des femmes et les défis inhérents à leur quotidien. Ça permet d'offrir aussi un éclairage nouveau sur des sujets différents d'une semaine à l'autre par le biais d'expériences personnelles, d'analyses psychologiques et émotionnelles, sans oublier les statistiques lorsqu'il y en aura. Tout ça dans le but de proposer des pistes de solutions et des outils. Puis, finalement, Terre de Femmes a comme mission d'apporter une compréhension plus juste du fonctionnement de la femme. Aujourd'hui, c'est la question de femmes immigrantes, un double défi. Elles sont venues s'établir au Québec pour quitter leur pays, rempli de défis sociopolitiques, pour suivre un amoureux rencontré en vacances. À quel moment dans leur vie le choix s'est-il effectué? Pour quelles raisons? Et quelles ont été les conséquences d'une telle décision? Est-ce que l'intégration est plus difficile pour les femmes? L'installation, la langue, le travail, les habitudes de vie, puis la séparation amoureuse. Pourquoi décident-elles de rester au pays, même si elles n'ont pas de famille? Alors, avec moi, en studio, Élise Voisin, intervenante à la Rue des Femmes, un organisme pour les femmes itinérantes, et Maria Béatrice Alvarez, psychologue dans le domaine de la santé.
J'aime aussi, comme je n'ai jamais aimé, la ligne courbe du destin, le silence des pluies, cher aux confins de ma vie. Cher malgré tout ce que je dis, aujourd'hui, j'erre parmi les pauvres ormes et les pins dégarnis, sans voir le sapin qui jaunit. J'erre parmi mes amis les meilleurs, que pourtant je tiens pour vigie. Mais j'erre toujours entre vos dires, j'erre pour ne pas mourir.
Cher pour ne pas mourir. C'était Chloé Sainte-Marie avec la chanson « Gère ». Bonjour Maria, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci beaucoup Marthe.
Alors, vous êtes psychologue, vous avez travaillé dans un centre communautaire pour la famille immigrante latino-américaine pendant 2 ans, puis dans un centre pour les femmes immigrantes pendant 1 année.
C'est bien ça.
Oui, voilà. Vous êtes native du Venezuela et vous avez immigré avec votre mari depuis combien d'années?
Ça fait 10 ans.
Et vous avez quitté votre pays pour des raisons sociopolitiques, je crois.
Oui, ça allait de pire en pire. Fait que ça me stressait beaucoup de rester là-bas. Je voyais je voyais pas des solutions. Je voyais que le processus devenait de plus en plus difficile. Puis c'est ça. On a commencé à avoir de possibilités pour faire l'immigration, mais toujours de possibilités pour avoir une résidence à quelque part, pour être légaux. Fait qu'il y avait pas trop de choix non plus. À l'époque, il y avait l'Australie puis le Canada. Fait que, bon, on a choisi le Canada. Puis ça a été une très bonne décision.
Ouais. Et à quel moment dans votre vie de couple, ce choix-là s'est-il effectué?
On venait de se marier.
Ah, d'accord.
Oui, on venait de se marier, puis il est là que ça a été comme un... Ça, on n'a pas eu le temps beaucoup de s'installer dans notre pays. Ça a été très, très vite. On a décidé ça avant le... Non, peu après le mariage. Fait qu'on venait comme de s'installer, mais on était dans les premières étapes quand on a commencé à faire. C'était pas non plus immédiat. Il fallait faire des étapes, comme apprendre le français. Fait que ça prenait, je pense que ça l'a pris à peu près 12 ans pour se préparer, pour venir ici, pour avoir la résidence.
Autant?
Oui, ça a pris tout le temps.
Oh, et quel âge vous aviez à l'époque?
J'étais fin de la vingtaine, début de la trentaine.
Ah, quand même, donc ouais, ouais. 12 ans après. Et bon, et pourquoi avoir choisi le Canada? C'était évidemment, j'imagine, pour la
pour
langue.
Pour le froid.
Oh non! Non, ça, c'est pas possible!
Dans le fond, ça a été parce que l'Australie était trop loin.
Ah oui.
C'était comme, OK, on fait le deuil de la famille, on oublie tout ça. Les billets d'avion, c'était extrêmement cher. Oui. Fait que ça rajoutait des difficultés à un processus qui est déjà assez difficile. Oui. Fait que, puis bon, le Canada, c'est un bel pays. Il y a une réputation magnifique à tous les niveaux. Mm-hmm. Fait que c'est vrai qu'on a réfléchi par rapport au froid, mais... Ici aussi, on est bien préparé pour tolérer ça.
Oui.
Fait que ça a donné ça. Ça a donné le Canada.
Et vous étiez psychologue dans votre pays. Est-ce qu'il y a eu des complications quand vous êtes arrivé ici? Est-ce que vos diplômes ont été reconnus ou c'était compliqué?
Je ne savais pas comment ça allait être. Je ne savais pas si j'allais pouvoir exercer ma profession. On se pose toutes sortes de questions. J'étais préparée à tout. Je me disais, bon, ici, il faut que je me réinvente, je vais me réinventer. Mais finalement, ça prend une démarche, comme tout. Puis, je l'ai fait, puis ça a bien été. J'ai eu l'équivalence.
D'accord. Ouais. Et en attendant de travailler, est-ce que vous avez souffert d'isolement, de solitude pendant que vous étiez à la maison dans l'installation?
Je dirais que c'est curieux parce que quand on s'est préparé pour venir ici, on a pris des cours de français à l'Alliance française. Puis toute la classe était des couples avec le même projet.
D'accord.
Fait qu'on a eu la chance d'arriver et puis d'avoir des amis qui étaient pas mal dans la même étape que nous. Fait que... Bien, ça a permis de ne pas s'isoler, mais c'est sûr que la famille, les amis, on les quitte, on les laisse dans notre pays, fait que ça ne remplace pas, hein, même si on a des bonnes personnes ici, ça ne remplace pas notre monde dans notre pays.
Est-ce que vous avez l'impression que vous avez eu des défis différents parce que vous étiez une femme?
Je pense que oui. C'est une très bonne question.
Quels sont ces défis?
C'est dans le sens où, à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il fallait comme choisir entre mon projet professionnel puis mon projet des familles.
Ah oui, d'accord.
C'est parce que nous, les femmes, le train s'en va. Ouais. L'âge reproductif, à un moment donné, ça expire. Mm-hmm. Mais en même temps, je venais d'arriver. Fait qu'il fallait, puis il fallait travailler, il faut payer les comptes.
Ben oui, bien sûr.
Fait que ça a été un moment difficile, ça a été une étape difficile. Puis c'est je trouve que c'est pour le fait d'être une femme.
Oui. Et finalement, la vie de couple n'a pas duré, malheureusement. Qu'est-ce qui fait que vous restez quand même et vous n'avez pas d'enfants non plus?
Il y a plusieurs éléments. Il y a le fait de... je suis bien ici. Mm-hmm. Je suis bien ici. Je ne peux pas me plaindre. Je suis bien. Je suis bien adaptée. Il y a le fait aussi... incontournable qu'à mon pays, ça marche pas. C'est pas un choix. Il y a des gens qui retournent, mais non, c'est pas mon cas, je le ferai pas. La situation s'améliore pas, puis je pense que je suis plus aidante ici pour ma famille que si je retourne.
Mmh. Et est-ce que, comment je pourrais dire, vous croyez pas, donc, même si la situation sociopolitique s'améliore, que vous allez retourner, vous avez décidé, vous allez adopter, vous avez votre citoyenneté aussi.
Oui.
D'accord.
Tout à fait.
Vous avez décidé de rester ici.
J'ai décidé de rester ici. Mm. Je suis bien ici.
Mom leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no. It's a crying shame if I ever loved you. If I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover, no, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no, that love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored. Out of the game. leaving the table. I'm out of the game.
Nous sommes toujours avec, en conversation avec Maria Béatrice. Alors Maria, on parlait que vous n'aviez pas l'intention de retourner dans votre pays, de vivre ici. Mais qu'est-ce qui vous tient ici, puisque vous êtes séparés? Est-ce que pour vous c'est difficile? Comment ça a été la séparation lorsqu'on est loin des siens?
Oh, c'est sûr que c'est... Une séparation, c'est toujours difficile, hein? On fait plusieurs deuils. Puis de ne pas avoir les proches à côté, c'est, je pense que c'est normal que ça le rend encore plus difficile. En même temps, ça fait 10 ans que je suis ici. Mm-hmm. Puis ça m'a donné le temps de m'adapter. Puis je dirais que je suis dans une bonne place. Tu sais, le Canada, le Québec, c'est... C'est magnifique. Oui. Je peux pas me plaindre. Oui. Fait que je suis bien. Puis c'est pour ça que je reste. Absolument.
Est-ce que vous voyez une différence dans votre profession en tant que psychologue comparativement à votre pays, la façon dont vous exercez votre profession?
Oui et non. Il y a eu des choses que c'était les mêmes. Tu sais, je reviens à des choses que j'avais déjà travaillées, que je connaissais déjà, mais on rajoute une difficulté par rapport à la langue,
ah oui.
Par rapport à une façon de faire les choses aussi, qui est, je dirais que c'est beaucoup plus encadré ici qu'à mon pays, je dirais... peut-être que c'est le fait d'être clinicienne. Oui, c'est ça, en conclusion. Il y a des choses que je retrouve, que j'avais déjà, mais il y a des choses qui ont rajouté une difficulté, puis qui sont différentes, puis que ça m'a fait comme à réapprendre ma profession, je dirais, oui.
Oui, parce qu'il doit y avoir le choc culturel. En fait, nos habitudes ne sont pas du tout les mêmes que dans votre pays. Donc, quand on est psychologue, ça doit être compliqué.
Oui, mais en même temps, je dirais qu'on n'est pas si différents que ça.
Non.
Je trouve que les Latinos et les Québécois, on a beaucoup de points en commun.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'il y a différence aussi. Mais je m'identifie quand même, puis je ne me trouve pas si loin de mes amis québécois, puis même de tu sais, de mon contexte québécois, je me sens... oui, je m'identifie. Je pense qu'on est... on se ressemble en plein de choses.
Mm-hmm. Et même, vous disiez au début que vous avez fait des cours de français. Mais
oui.
J'imagine que quand vous êtes arrivé ici, vous êtes aperçu qu'il y avait quand même un décalage avec ce qu'on vous avait appris.
Oui, ça, c'est drôle parce que quand on arrive, on pense qu'on parle.
On parle français.
Oui, c'est ça. Mais on se rend compte que non, c'est pas... Tu sais, c'est un français qui va te permettre de faire le tour, de survivre, mais c'est pas un français. Puis surtout pour travailler. Puis dans mon cas, les mots sont mes outils de travail. Fait que non, ça m'a pris du temps.
Oui, combien de temps?
Je dirais que je suis encore en apprentissage. Parfois, il y a de petites expressions, des mots que je dis, mais mon Dieu, j'ai hâte que ça... Tu sais, comme de l'avoir au complet. Mais c'est vrai qu'aussi en espagnol, ça se peut que, tu sais, parfois un mot que, ah, je savais pas, ah, oui. C'est intéressant, c'est curieux. Mais l'apprentissage d'une langue, c'est profond, c'est complexe, c'est extrêmement complexe.
Oui, c'est des racines aussi.
Oui.
Ça va beaucoup avec la culture également.
Mais j'adore le fait de... Tu sais, j'avais toute ma vie rêvé d'apprendre le français parce que mon arrière-grand-père était français.
Ah, c'est vrai?
Oui, mais je ne savais pas à quel point j'allais l'apprendre. Okay. Fait que c'est une langue que j'étais toujours en amour... Fait que je suis très contente de l'avoir appris et de la maîtriser.
Oui, bien sûr. J'imagine que vos premières expériences avec des clients, des patients, est-ce que ça a été une source de stress, justement, parce que à cause de l'expression?
Oui, mais je me suis donné une formule. J'ai dit, écoutez, si ça se peut que j'ai dit des choses puis que vous ne me comprenez pas, posez-moi des questions. Puis moi aussi, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais vous poser des questions. Fait qu'on va être à l'aise avec le fait de se poser des questions. Puis j'ai comme normalisé ça.
Oui, d'accord.
Puis je pense que c'est ça qui m'a permis, dans les premières étapes, de faciliter la communication dans une autre langue où je me sentais moins habile.
C'est tout un courage quand même.
Oui,
c'est très courageuse.
Merci.
Et puis vous avez aussi appris l'anglais lorsque vous êtes arrivée ici.
Oui, bon, l'anglais c'était la deuxième langue quand même au Venezuela. Ah, tu sais, on le voit à l'école, fait qu'on était beaucoup plus familiarisés avec ça.
Mm-hmm.
Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive, on utilise beaucoup plus l'anglais. Mais je dirais que mon anglais, ça repose à quelque part. Puis mon français est devenu beaucoup plus fluide, puis beaucoup mieux. Puis je me sens très à l'aise avec le français, beaucoup plus qu'avec mon anglais.
Oui. Est-ce que vous avez eu des commentaires de patients ou de patientes à cause de votre accent, justement?
J'ai eu même... Oui, il y en a qui remarquent un accent. Il y en a qui me disent « Ah, oh, mais t'as un accent d'ici. » À un moment donné, j'ai trouvé quelqu'un qui s'est réservé parce qu'il pensait que j'allais pas comprendre. Mais quand Makonou m'a dit « Mais non, tu parles très bien. Tu parles même comme les gens d'ici. » Fait que non, ben, tout sort d'expérience aussi par rapport à la langue. C'est très riche, très varié.
Et vous êtes retournée à l'université, vous êtes présentement en train de finir une maîtrise ou un doctorat?
Un doctorat. Oui.
Ben, c'est pas banal.
Non, c'est pas banal. C'est énorme.
Est-ce que vous croyez, Maria, que vous auriez fait la même chose dans votre pays, c'est-à-dire pousser...
Non, je pense pas. Non, ça c'est... Non.
Et pour quelle raison?
C'est une question intéressante. Je dirais que dans mon pays, j'étais dans mes pantoufles.
Ah oui, d'accord.
Sur le plan professionnel.
Et pas ici?
Non, quand personne ne te connaît, il faut que tu te fasses ta place. Puis j'ai beaucoup pédalé. J'avais toujours l'impression qu'il fallait pédaler justement pour comprendre les différences culturelles, pour la langue, pour... je trouvais qu'il y a des auteurs... en psychologie que j'ai connue ici, que je n'avais pas vue au Venezuela, même si la base est toujours la même,
oui.
Puis ça, c'est rassurant. Mais oui, il y a eu des différences.
Mm-hmm. Et maintenant, malheureusement, le couple a éclaté. Comment est-ce que ça a été plus facile pour vous du fait que vous êtes arrivé à deux pays, de continuer un peu, je dirais, votre parcours seul, que si vous étiez arrivé seul?
Je pense que le fait d'arriver à un couple, ça a été une bonne chose. T'sais, on était une équipe. Fait que c'était, ça me faisait une bonne compagnie, ça me faisait... On avait comme chacun ses dossiers.
Mm-hmm.
Maintenant, c'est à moi de me couper de tous mes dossiers. C'est sûr que c'est exigeant. C'est comme une autre adaptation, mais là, je me sens, j'ai la base pour mieux m'adapter à ce nouveau défi.
Oui.
Oui.
Et ceci dit, je pense que vous avez toujours le support de votre mère, de vos amis là-bas et tout.
Oui. Bon. Oui.
Parfait. Vous revenez avec nous, Maria, à la fin pour nous parler, en fait, avec votre chapeau de psychologue.
Ça va me faire plaisir.
Je crache du sens pour découper le tas. 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 Qui croit, puis y en a qui se demandent.
Après la pause publicitaire, je m'entretiendrai avec Élise Voisin.
Vous écoutez Terre des femmes avec Marthe Saint-Laurent.
Bonjour Élise Voisin, vous êtes intervenante à la Rue des femmes, organisme pour les femmes itinérantes, et vous êtes d'origine indienne mais française, est-ce que je me trompe?
Non, c'est bien ça, donc je suis bien intervenante, puis je suis effectivement d'origine indienne. J'ai été adoptée par des parents français à l'âge de 6 mois et demi, et donc j'ai grandi en France, j'ai grandi en France.
D'accord, et ça fait combien d'années que vous êtes arrivée au Québec?
Je suis arrivée en 2012, à l'automne 2012.
D'accord. Ouais. Et votre histoire est assez fascinante. Vous êtes venue vous installer ici par amour. Vous avez rencontré un Québécois.
Oui.
Pendant les vacances, est-ce que vous voulez nous résumer un peu?
Oui, pour faire une histoire courte, c'est ça. J'ai rencontré un Québécois en Égypte dans le cadre d'un voyage de développement personnel. Mmh. Et puis, ben, c'est ça, on s'est rencontrés, c'était début du printemps 2012. Et puis, ben, on ne sait plus. Je suis venue au Québec pour la première fois pour voir si cette histoire allait pouvoir se poursuivre en été 2012. Et on a pris la décision de vivre ensemble, donc de moi, d'immigrer au Québec.
Après seulement un voyage?
Oui, tout à fait. Voilà.
Quel courage!
C'était rapide, c'est vrai, c'était donc, rapide.
On peut dire que vous avez quitté votre pays pour l'amour.
Oui, bon, complètement, c'est complètement ça, c'est un coup de cœur.
Et vous êtes mariée, et ça fait combien de temps de ça?
Alors, on s'est mariés dans le cadre du parrainage, sinon on ne se serait pas mariés.
Ah oui, d'accord.
Parce qu'en fait, c'est ça, pour que je puisse immigrer et vivre avec lui, il a fallu qu'il me parraine. Et dans le cadre du parrainage, il y a l'obligation du mariage.
D'accord. Est-ce que vous avez eu des problèmes de vous adapter à notre accent?
Oui, ça a été super dur au début. Oh, ça, c'était un gros défi, l'accent et les expressions québécoises. Parce que donc, j'habitais pas ni à Montréal, ni dans une grande ville comme Québec. J'étais dans la province du Québec, en Beauce. Et donc, c'est quand même une région qui est assez agricole.
Ouais.
Et l'un plus l'autre a fait qu'au début, c'était compliqué pour moi, oui, de comprendre le québécois et ses expressions.
Difficile. Et sur le plan affectif, est-ce que vous avez, sur le plan psychologique, est-ce que vous avez souffert d'isolement, de solitude?
Oui, je dirais pas forcément au début parce que l'histoire, c'est une histoire d'amour, puis tout va bien, puis on a les papillons dans les yeux et dans le ventre. Mm-hmm. Après, ça a été plus dur. En plus, je suis arrivée, donc gros hiver aussi en 2012.
Ah oui.
Il a fallu que j'attende un an et demi avant d'avoir, un petit peu moins d'un an et demi avant d'avoir mon permis de travail. À l'époque, dans le cadre du parrainage, on n'avait pas le droit de travailler tant qu'on n'avait pas de permis de travail. Donc, ça veut dire que j'étais une femme isolée à la maison, sans voiture, sans permis de travail, donc pas de vie socio-professionnelle, pas encore de tissu social-amical, je veux dire. Fait que non, c'était dur au début, oui.
Et est-ce que, sur le plan justement professionnel, est-ce que ça a été compliqué une fois que vous avez eu votre permis?
Sur le plan professionnel, ça a été aussi un autre défi parce que on repart à zéro au niveau du salaire, déjà, premièrement. Mmh. Ensuite, moi, j'ai pas réussi à obtenir une équivalence ici par rapport à mes diplômes en France. Et puis, il y avait le troisième défi, c'est que j'étais en Beauce, donc une région agricole. Et donc, il n'y avait pas forcément des professions les professions qui m'attiraient, moi. Donc, j'ai fait des petits jobs à droite à gauche quand je suis arrivée là-bas.
Est-ce que c'est difficile pour l'estime de soi?
Et c'est très difficile pour l'estime de soi parce qu'on est dépendant à plein de niveaux quand on immigre et qu'on est parrainé. On repart à zéro financièrement, on repart un peu aussi à zéro au niveau des capacités qu'on est capable de transmettre au niveau professionnel, je veux dire. Fait que oui, c'était pas évident. Ouais.
Et est-ce que vos aspirations étaient différentes à cause de l'éloignement sur le plan professionnel?
J'ai pas compris, pardon.
J'ai dit, est-ce que vos aspirations ont été différentes que si vous étiez resté dans votre pays? Est-ce que la tangente que vous avez maintenant, vous croyez que vous auriez fait ce métier-là dans votre pays?
Le métier d'être intervenante.
Oui.
Effectivement, je pense que le Québec et mon expérience de vie au Québec, intérieur et extérieur, m'a beaucoup amenée là aussi à faire ce métier-là aujourd'hui. Je pense que j'aurais jamais pensé le faire, même si j'ai quand même une fibre sociale très importante à l'intérieur.
Mm-hmm.
Quand je suis partie de France, j'avais commencé à donner des enseignements de Reiki, donc j'étais ailleurs, oui. Fait qu'il y a eu un changement radical de profession et de direction, mais c'est bien. Je veux dire, il y a pas de jugement là-dessus non plus. Mmh.
Et est-ce que vous avez l'impression que vous avez des difficultés supplémentaires parce que vous êtes une femme?
En fait, ce à quoi j'étais confrontée un petit peu ici, c'est que la révolution sexuelle au Québec, elle a été assez importante, intense, et oui. Les femmes ont une liberté, il y a comme une parité homme-femme qui est plus équilibrée que je trouve en France. Et donc, pour moi, ça a été un petit peu difficile parce que je pense que j'arrivais de France, j'avais pas cette force-là, cette puissance-là du féminin en moi. Et je dirais que et le Québec et ce que j'ai vécu dans ma relation amoureuse qui s'est terminée m'a permis de m'ouvrir là-dessus, d'avoir plus un plus grand pouvoir de moi-même.
Oui,
ouais, c'est ça.
Comprends. Et après, après la séparation, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé?
Juste après?
Oui.
Ben, ça a été un deuil qui a été assez long, je dirais. Ouais.
Est-ce que vous êtes retombé un peu dans le, comment je pourrais dire, dans l'isolement ou que vous aviez vécu au début?
Oui, puis non, parce qu'en fait, donc, j'ai quitté la province où j'étais pour aller à Montréal, donc je connaissais pas grand monde. Il a fallu recréer à nouveau un tissu social. Ça a été la plus grosse initiation de ma vie. Je peux dire ça comme ça. Oui, mais en même temps, le fait de l'avoir traversé, ça m'a donné aussi la plus grande liberté que j'avais jamais connue au niveau du pouvoir personnel. Parce que du coup, en fait, à la fin, c'est vraiment un défi personnel. C'est-à-dire savoir se relever de ses choix personnels, même si ça n'aboutit pas comme on l'avait souhaité. Fait que ça a été une très belle reprise de maîtrise de soi.
Et vous n'avez jamais pensé à retourner dans votre pays?
Oui, si la question elle est pertinente, évidemment, bien sûr que j'y ai pensé. À l'époque où, pendant la séparation, je ne pouvais pas, parce que matériellement, je ne pouvais pas, financièrement, je n'avais plus beaucoup d'argent. Ouais. Et puis, j'avais mon deuil qu'il fallait absolument que je traverse. Et je pense que je n'avais pas la capacité d'aller, de revenir en France et de revenir avec ce deuil-là en plus. J'avais besoin de le vivre sur place. Donc c'est ça. J'ai décidé de rester pour toutes ces raisons-là au départ. Et maintenant, si je suis ici, ça n'a rien à voir avec tout ça. J'ai vraiment traversé toutes ces choses-là. Si je suis ici, c'est vraiment par choix de cœur, parce que j'aime l'ouverture d'esprit ici à Montréal. J'aime mon travail, toutes ces choses-là. Bon, en tout cas, il y a un confort de vie que j'ai acquis et à l'intérieur de moi et à l'extérieur aussi. Et non, je suis contente d'être ici. J'ai eu ma citoyenneté l'année passée.
Oui, voilà, c'était ma prochaine question.
J'étais très fière d'avoir eu ma citoyenneté. J'ai remercié mon ex pour ça, parce que c'est aussi grâce à lui. Fait que non, c'était pas un choix. Je venais pas pour avoir une citoyenneté ni des papiers. Je veux dire, bien sûr, j'avais tout mon confort matériel en France. Je suis vraiment venue par amour, mais en même temps, cette expérience m'a amenée là. Et avec, une coche de maîtrise de soi qui va un peu plus loin à l'intérieur, fait que c'est toujours une expérience, c'est jamais nul en fait. Voilà, c'est ça.
Et vous avez été mariée combien d'années finalement?
4 ans et demi, 5 ans, d'accord. Pas très long. Ouais.
Et vous ne pensez pas retourner dans votre pays, pas pour l'instant en tout cas?
En France?
Oui.
Pour l'instant, non, évidemment, à cause du Covid, mais j'y suis déjà retournée pour voir ma famille et je compte bien y retourner. Plus.
Non, je parlais pour vous réinstaller.
Me réinstaller là-bas. Oui. Non, je pense que mon cœur penche ici. Oui.
Malgré l'hiver.
Malgré l'hiver.
Alors, merci beaucoup, Élise Voisin, d'être passée au studio pour nous rencontrer.
Merci, Martin-Laurent. Merci beaucoup.
You always wanted me to catch your wave, oh, but I never.
De retour avec Maria Béatrice Alvarez, qui est psychologue. En début d'émission, j'ai mentionné que vous aviez travaillé dans un centre communautaire pour la famille immigrante latino-américaine pendant 2 ans.
Oui.
Et dans un centre pour les femmes immigrantes pendant 1 année. Qu'est-ce qui vous a amené là?
La chance. Dans le fond, étant donné que je ne savais pas si j'allais pouvoir exercer ma profession, la porte qui s'est ouverte, c'est de commencer dans le communautaire. Puis ça a été où j'ai resté dans mon loyer. J'ai connu quelqu'un qui m'a dit « Viens avec moi, je vais te présenter quelqu'un ». C'était la directrice du centre communautaire pour les familles latino-américaines. Fait que ça m'a ouvert comme toutes les portes après. Puis ça a été une belle introduction. Parce que ça m'a donné l'occasion de faire de l'intervention, de soutenir les autres, c'est ça ma passion, puis de connaître aussi le monde communautaire. Ouais. Puis ça m'a permis d'arriver tranquillement à la psychologie qui est ma profession. Ouais. Ça a été une belle introduction, puis une belle expérience.
Donc ça fait quand même 3 ans dans des...
Dans le monde communautaire, ouais. Oui.
Oui. Oui. Et quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés, que les femmes rencontrent là, que vous avez vus?
Je dirais que c'est tellement varié, c'est diversifié.
Il y a évidemment l'isolement, je présume.
Oui, l'isolement, l'anxiété, le stress. On s'entend que l'expérience d'immigration, c'est un défi énorme. C'est une grosse épreuve. C'est pas, tu sais, dans mon cas, je suis arrivée avec ma résidence, c'est mon expérience à moi, mais c'est pas l'expérience de tout le monde. Il y a des gens qui arrivent réfugiés, il y a des gens qui arrivent vraiment dans des contextes, dans des situations très, très dures, très difficiles, fait que ça a été l'occasion de voir des histoires, toutes sortes d'histoires différentes, de toutes sortes de femmes aussi différentes.
Est-ce que les défis sont différents que ceux pour les hommes?
Je dirais que le fait que on porte comme la famille, ça nous rajoute peut-être une difficulté.
L'anxiété.
Puis surtout, oui, l'anxiété, le stress. Oui, c'est éprouvant.
Puis il y a la barrière aussi du langage, c'est-à-dire il y a des femmes qui ne parlent pas du tout le français quand elles arrivent.
Oui, dans plusieurs cas, oui, tout à fait. Ça, c'est énorme aussi, parce que si tu ne peux pas communiquer, tu restes isolé. Fait que l'une des choses qu'il faut vraiment faire, c'est de sortir de l'isolement puis d'apprendre les langues.
Qu'est-ce qu'elles ont besoin le plus quand elles arrivent ici? Comment on peut les aider si nous, on est en contact avec les femmes immigrantes?
Je pense qu'il y a un répertoire énorme de services de qui apportent le soutien nécessaire pour tous les aspects. C'est pour l'apprentissage de la langue, ça on peut pas se plaindre. Et même pour la recherche d'emploi, pour l'aide alimentaire. Pour le soutien psychologique. Oui. L'une des choses qui m'a impressionnée quand je suis arrivée ici, c'est de voir tout le service, tout ce qu'on avait comme soutien pour nous adapter, pour mieux connaître, pour comprendre comment ça fonctionne. Toujours quelqu'un avec une bonne écoute qui va t'écouter, qui va t'orienter dans tes prochaines étapes. Fait qu'il faut pas rester à la maison, il faut sortir, il faut aller connaître. Puis c'est le soutien aussi des autres femmes.
Ah oui.
Et elles se soutenaient mutuellement.
Ah oui, il y avait beaucoup de solidarité entre elles.
Oui. Puis on essayait de favoriser ça aussi.
Peu importe le pays d'origine.
Peu importe le pays d'origine, oui. Oui.
Donc la solidarité féminine existe vraiment.
Oui. Je pense que ça existe partout.
Et sur le plan psychologique, qu'est-ce que vous dites? Quels sont les plus gros, dommages, collatéraux?
C'est sûr que c'est une adaptation. C'est un processus d'adaptation. On fait plusieurs deuils comme immigrante. On perd nos repères. Fait que ça, c'est important, c'est assez profond, c'est complexe, c'est difficile. Fait que c'est comme si notre système nerveux, il cherche de s'adapter. Hein, et on vit beaucoup de détresse. Et ça dépend de la personne. Ça peut... tu sais, des symptômes dépressifs, des symptômes d'anxiété. Ça dépend du contexte, ça dépend de la personne. Ça dépend de beaucoup d'éléments. Mais les... c'est normal de faire, de réagir, de faire des réactions psychologiques parce que c'est assez exigeant comme situation.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler de régression?
Oui, je pense que oui, tout à fait. Comme je disais tantôt, il y a toutes sortes de réactions psychologiques qui sont possibles. Mmh. Fait que... il faut s'en occuper, hein, oui, de notre santé mentale.
Tout à fait. Puis j'imagine qu'il y a des gens aussi qui arrivent, des femmes qui arrivent déjà avec des soucis psychologiques
oui,
qu'elles arrivent
oui,
à
oui, oui, c'est sûr qu'on a notre santé mentale, tu sais, comme notre santé physique, on ne la choisit pas, mais qu'on l'a tous. Fait que selon nos forces et nos faiblesses, c'est pour ça que c'est important de se connaître puis de connaître qu'est-ce qui nous fait du bien, oui, qu'est-ce qui nous aide à nous adapter, qu'est-ce qui nous aide à être résiliente.
Oui, voilà, parlez-moi de la résilience.
Oui.
J'y allais.
c'est important d'identifier nos propres ressources, nos propres moyens internes puis les moyens externes.
Mm-hmm. Donne-moi un exemple.
Bon, quand on parle des moyens internes, c'est, comme j'ai dit tantôt, tout ce qui nous fait du bien. Mm-hmm. Hein, quand on se connaît, on sait, bon, moi, la musique, ça m'aide, d'être avec mes amis, ça m'aide. Ah, je fais du bricolage, ou je fais de l'exercice, ou je fais de la cuisine, ou, tu sais, ça, c'est, comme je l'appelle, c'est notre boîte à outils.
Oui.
Fait que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils. Parce que ça peut varier d'une personne à l'autre. Il y en a pour qui chanter, c'est un moyen. Puis dans le fond, c'est un excellent moyen d'ailleurs, mm-hmm, chanter.
Oui.
Parce que ça, ça fait chuter le cortisol, qui c'est l'hormone du stress.
Oui.
Oui. Mais c'est ça. Il y en a pour qui, oui, ils chantent pour se sentir bien. Il y en a pour qui c'est l'exercice. Il y en a pour qui c'est la lecture. Il y en a pour qui. Fait que c'est ça. La boîte à outils, c'est quelque chose de très personnel, de très individuel, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on a chacun dans notre boîte à outils. Puis par rapport à des ressources externes.
Qu'est-ce que vous pouvez, vers où on peut orienter ces femmes?
Oui, tout à fait. Puis je dirais que la meilleure façon de connaître les ressources de chaque quartier,
oui,
et c'est de s'adresser au CLSC, à okay, l'accueil psychosocial.
D'accord.
Parce qu'il est là qu'il y a comme tout le répertoire. Mm-hmm. C'est pour les mères monoparentales, pour les familles, pour les enfants, pour les femmes, pour le n'importe quoi. Pour oui, toutes sortes de situations, pour toutes sortes de difficultés ou de besoins, il y a une liste de services, de programmes. Fait que c'est le bon endroit pour se renseigner.
Oui.
Il ne faut pas rester à la maison, il ne faut pas rester seul.
Ouais. Et combien de temps, à peu près, ça prend, dernière question, combien de temps ça prend à peu près pour s'adapter? Ces femmes-là fréquentent ces centres-là?
Oui, ça c'est une bonne question. Je sais pas si j'ai une réponse ponctuelle, parce que je dirais que le processus d'adaptation de chacun c'est très différent.
On parle de 6 mois, on parle d'années, on
peut parler des années
des
en
années.
Plusieurs cas, on peut parler des mois dans quelques cas. Je dirais que c'est sûr que il y a des deuils à faire. Ça prend du temps,
oui,
de faire des deuils, parce que c'est l'acceptation de ce qu'on a perdu, c'est le fait d'être en paix avec ça. Puis oui, ça nous prend de différentes étapes, ça prend du temps, puis il faut se donner ce temps pour le faire. Fait que c'est très varié.
Oui.
Et puis c'est différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont le faire plus rapide, il y a des gens qui vont prendre plus de temps, mais je pense que plus on identifie nos propres ressources, puis les ressources qu'on a dans notre milieu,
oui,
c'est sûr que ça va aider, puis ça va pousser,
oui,
oui, le processus.
Et au niveau de l'emploi, vous disiez qu'il y avait des services communautaires.
Oui, tout à fait, oui. Puis ça, c'est important, parce qu'on s'entend qu'il faut travailler, hein, il faut payer ses comptes.
Oui.
Puis quand on arrive, c'est différent d'un pays à l'autre. Puis c'est sûr que dans nos pays, on avait notre réseau, les gens savaient de notre réputation. Ici, on arrive, il n'y a personne qui te connaît. Mm-hmm. Fait que même la façon de faire un CV, la façon de présenter une lettre, de te présenter, ton enthousiasme pour travailler, ton intérêt pour travailler à quelque part. Bon, dans des centres communautaires spécialisés pour l'emploi, ils vont t'orienter par rapport à ça. Puis ça, c'est précieux.
Mm-hmm.
Puis c'est, je pense que c'est toujours à travers Emploi Québec, mais ils vont rediriger le monde à des centres communautaires spécialisés en emploi.
D'accord.
Oui.
Mais merci beaucoup, Maria-Béatrice. C'était un plaisir.
Ça m'a fait plaisir à moi. Merci.
Un immense merci à mes invités en studio, Maria-Béatrice Alvarez, psychologue, et Élise Voisin, intervenante à la Rue des Femmes. Merci à l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous souhaite une agréable semaine et je vous laisse sur cette citation d'Hélène Keller. Les plus belles choses du monde ne peuvent être vues ou même touchées. Elles sont ressenties avec le cœur. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.